Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. France Culture passe le bac cette semaine et les chemins de la philosophie vous préparent à l'épreuve de philosophie qui aura lieu le 18 juin prochain. Élèves, parents et tous les autres, à vos copies, vous avez 50 minutes pour traiter le sujet suivant. Peut-on vivre sans foi ni loi ?
Je me souviens d'un temps où régnait le chaos. Un temps de rêves brisés, de terres dévastées. Mais par-dessus tout, je me souviens du guerrier de la route, l'homme que nous appelions Max. Pour comprendre qui était cet homme, il faut revenir à une autre époque, quand le monde tournait au carburant noir et que fleurissaient dans les déserts de grandes cités de tubes et d'acier. Disparu maintenant, balayé. Pour des raisons aujourd'hui oubliées, de puissantes tribus entrèrent en guerre, allumant un brasier qui les dévora toutes les deux. Sans carburant, elles n'étaient rien. Leur empire était de paille. Le grondement des machines octa et s'éteignit. Les chefs parlèrent encore. Mais rien ne pouvait endiguer le désastre. Leur monde s'écroula. Les villes explosèrent, provoquant une tornade de pillage, un vent brûlant de terreur. L'homme commença à se nourrir de l'homme. Sur les routes régnait le cauchemar de la ligne blanche. Seuls les flibustiers les plus mobiles, les pillards les plus impitoyables survivaient. Les bandes prirent le contrôle des routes, prêtes à se faire la guerre pour un bidon de carburant.
Bonjour Julien Chanalune.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie.
Merci à vous.
Je suis ravie de vous recevoir pour cette deuxième émission spéciale Bac Philo. Vous êtes professeur au lycée Sonia Delaunay de Cesson. Vous êtes l'auteur aussi de La philosophie au bac, cours et méthode en 20 sujets qu'on trouve aux éditions Ellipse, qui est paru cette année. Donc vous êtes vraiment approprié, le candidat idéal pour ce type d'émission de préparation au bac. Et c'est vous qui avez proposé le sujet « Peut-on vivre sans foi ni loi ?» Une première chose quand on entend ce sujet-là, ou quand on le lit, des images nous viennent à l'esprit, on peut les prendre au sérieux quand on est élève, et on peut très bien penser à ce monde décrit par Mad Max, dont on vient d'entendre un extrait, hein, le film réalisé par George Miller en 1981, c'est Mad Max 2. Vous le connaissez, Mad Max ?
Oui, j'aime beaucoup ce film, et c'est vrai que en voyant le sujet, les images de ce film me sont venues à l'esprit, et notamment le début avec cette voix qui raconte, qui décrit un monde qui sombre peu à peu dans le chaos. Et alors, c'est intéressant au moins à deux titres cet extrait, parce que dans un premier temps, quand on écoute cette voix off qui décrit la perte de carburant, les gens qui tout d'un coup se dressent les uns contre les autres, l'homme se nourrit de l'homme, c'est-à-dire on perd toute forme d'humanité, on se dit ça y est, le monde a basculé, le monde devient sans foi ni loi. Mais en même temps, la voix off nous présente le personnage de Mad Max, et ce personnage de Mad Max, lui, vit en dehors de la société, en dehors de tout, il est isolé. Et finalement, on a l'impression que celui qui vit sans foi ni loi, c'est pas tant les bandes qui essaient de s'organiser, dans la violence certes, mais qui essaient de s'organiser, mais c'est peut-être le personnage de Mad Max lui-même.
Hein, qui est-il pour ceux qui ne le connaissent pas ?
Alors, c'est un ancien policier qui a vu dans la fin du premier film sa femme mourir assassinée par des bandits, et qui du coup ne se pardonne pas, alors peut-être qu'on reviendra sur cette idée.
Bien sûr.
Ne se pardonne pas le fait d'avoir laissé sa femme mourir et se bannit lui-même du reste de la société. Il mène sa vie sans aucun sens, sans aucun but. Et on a l'impression que finalement, celui qui vit sans foi ni loi, c'est lui. Et peut-être, au cours du film, parviendra-t-il à retrouver une foi et à retrouver un sens de la loi.
Donc on peut, si on est élève, voilà, candidat, le jour du bac, on ouvre l'enveloppe qui comporte les sujets, on voit ce sujet-là. Si ce film qu'on aura la chance d'avoir vu, ou bien peut-être d'autres, nous vient à l'esprit, on peut partir de là pour la réflexion ?
Alors, on peut partir de là pour la réflexion, et on peut partir de toute sa culture. Hein. On vient avec sa culture générale, c'est-à-dire sa culture littéraire, scientifique, historique, artistique. Hein. Donc on peut tout à fait partir de ce film-là. Attention cependant, il ne faut pas, se borner à des références comme ça de culture populaire, même si elles sont forcément intéressantes si on les analyse bien, mais il faut aussi aller puiser dans sa culture classique, c'est-à-dire dans toutes les œuvres qui peuvent fonder la culture populaire, hein, pour montrer aussi au correcteur que ben on n'a pas que une culture cinématographique, mais aussi une culture littéraire et philosophique.
Alors comment vous procédez? Si vous tombez sur ce sujet le jour du bac, vous vous dites pourquoi est-ce qu'on choisirait celui-ci par exemple et pas l'autre, ou l'explication de texte parce qu'on aura étudié le terme de loi pendant l'année ou parce qu'il évoque quelque chose qui nous est familier?
Ben, ce qui est intéressant, et c'est vrai que ce qui peut séduire quand on voit ce sujet-là, c'est qu'il part d'une expression commune, hein, vivre sans foi ni loi. On entend ça des fois, des gens, on entend aux informations, telle exaction, tel crime commis, on se dit, ah, vraiment, les gens qui ont fait ça, ce sont des gens sans foi ni loi. Qu'est-ce qu'on veut dire exactement, hein? La philosophie, elle est là pour s'interroger aussi sur le sens de ces expressions communes qui, des fois, contiennent bien plus que ce qu'on croirait au premier abord.
En l'occurrence, qu'est-ce que ça veut dire sans foi ni loi?
Ben, on a l'impression que quelqu'un qui vit sans foi ni loi est quelqu'un qui vivrait en réalité sans morale, qui ne respecterait rien ni personne, qui ne respecterait pas autrui, qui ne respecterait pas la société elle-même, qui ne respecterait aucune autorité, ni politique, la loi, ni religieuse, la foi, et que ne respectant aucune autorité, il rend impossible, hein, caduque, toute possibilité de vivre en société.
Et donc le problème serait d'emblée contenu dans l'expression, c'est ça? Peut-on vivre sans foi ni loi? Ça veut dire peut-on vivre sans société?
Oui, dans un sens où peut-on vivre sans le cadre, sans les règles qui font que la société est possible.
Si vous avez proposé ce sujet, puisque vous êtes professeur de philosophie, c'est qu'il est susceptible de tomber le jour du bac. Ça veut dire qu'un élève en terminale à ce stade-là de l'année est capable de traiter ce sujet-là?
Normalement, oui.
Il a étudié les notions en lien au programme, la justice, le droit, etc.
Oui, oui, je pense. Alors, il ne faut pas nécessairement raisonner en termes de notions, hein. Évidemment, il faut essayer de les identifier tout de suite dans le sujet. Mais il y a des notions qui sont parfois explicitement nommées. Là, la loi, la foi fait directement référence à la religion. Mais il y a évidemment les notions qui sont implicites, implicitement contenues dans le sujet. La morale, autrui, le bonheur. Énormément de notions qui font référence à énormément de choses que l'élève a pu voir pendant l'année. Donc, si on raisonne en termes de notions, si on se dit, là, il y a la foi, il y a la loi, alors j'ouvre dans ma mémoire le tiroir, par exemple, du cours de philosophie politique du professeur, hein, je n'ouvre pas celui du cours sur le bonheur, par exemple, on peut se fermer comme ça des pistes de réflexion intéressantes. Donc, voyons le sujet tel qu'il est, et puis les références viendront au fur et à mesure de l'analyse.
Alors, par exemple, cas particulier, face à ce sujet, comment est-ce que vous procédez?
Alors, déjà, je jauge la question, je l'examine, je la regarde, je ne pars pas dans une sorte de définition un peu frénétique de tous les mots les uns après les autres. La première chose qu'il faut faire, c'est se garder, à mon sens, de tomber à bras raccourcis sur chaque mot séparément et d'en proposer des définitions comme ça, terme à terme. Qu'est-ce que c'est que pouvoir? Qu'est-ce que c'est que vivre? Qu'est-ce que c'est que la foi? Qu'est-ce que c'est que la loi? Hein? Parce que comme ça, on morcelle le sujet et on s'empêche de voir son sens global. Mais d'essayer de jauger la question et de se demander, mais pourquoi est-ce qu'on me pose cette question?
Oui.
Pourquoi est-ce qu'on me pose
cette
question?
Oui, c'est pas juste un intitulé de sujet de dissertation, c'est une vraie question.
C'est une vraie question.
Hein. Qui peut nous concerner en tant qu'individu, en tant que citoyen, en tant que candidat au bac ou autre.
Voilà. L'une des premières, à mon sens, conditions pour réussir la dissertation, c'est de prendre la question au sérieux. C'est pas juste une question scolaire. Alors, je sais que quand on est élève et que, comme vous dites, on ouvre l'enveloppe, on découvre le sujet, on se dit c'est une question très scolaire. Mais au-delà de la question scolaire, il faut voir que c'est une question qui, tout d'un coup, dans l'espace de 4 heures, va devenir très urgente. Très urgente. Et il faut pouvoir la prendre au sérieux et se dire finalement, vivre sans foi ni loi, ou vivre avec la foi et la loi, qu'est-ce que ça veut dire?
Je vous pose la question, puisque c'est vous qui êtes le candidat aujourd'hui, Julien Chanalune. Alors vous n'avez pas 4 heures, mais 40 minutes désormais pour analyser le sujet. On est en train de le faire, proposer l'introduction. Trois parties, j'imagine, parce que c'est souvent ce plan-là qui est de mise. Qu'est-ce que ça veut dire donc? Et comment est-ce que vous procédez pour avancer maintenant dans l'analyse de ce sujet, dans la rédaction de la dissertation?
Alors, premièrement, donc, dans l'analyse du sujet, j'essaie de repérer le sens de la question. Donc comme on vient de le dire, vivre sans foi ni loi semblerait presque impossible parce qu'il rendrait, il détruirait toute possibilité de vie en société, de vie avec autrui. Hein. Mais de l'autre côté, la foi et la loi semblent très importantes parce que c'est grâce à elles, en se soumettant à elles, qu'on établit des règles de vie communes et que on peut interagir avec autrui, on peut avoir confiance en lui. Et donc du coup, la foi et la loi permettent de vivre ensemble, permettent presque le bonheur commun, pour ainsi dire. Mm-hmm. L'idée de la loi, c'est toutes les règles qui vont nous permettre d'interagir avec autrui. Et l'idée de la foi, c'est l'idée que, ben, on espère ensemble, on a ensemble l'idée d'un destin commun, de quelque chose qui nous motive.
Face à ces deux termes, je me demanderais, moi, quel est le point commun entre la foi et la loi. La loi, je vois bien à quel point ça peut être le ciment de notre vie en société. La foi, quelque chose de plus individuel. Pourquoi est-ce que la question est la même du sans foi ni loi?
Parce que, finalement, quand on vit en société, on vit toujours avec les autres. On a toujours l'idée que quelque chose nous rassemble, quelque chose qui peut-être nous dépasse, qui va au-delà de nous-mêmes. Hein. Traditionnellement, hein, l'Église... L'Église qui donnait les codes moraux légitimait la loi civile. Hein. Et il y a souvent, en réalité, c'est ce que j'espère qu'on pourra voir au cours du développement, hein, il y a souvent cette idée, en réalité, que ce qui légitime la loi civile, ce qui impose de manière autoritaire le fait qu'elle soit juste et indiscutable, c'est l'autorité morale de l'Église, donc la foi.
Alors, on va essayer de définir ensemble ce qu'est la problématique, puisque chaque sujet comporte une problématique. Mais avant cela, je tiens à préciser que lorsque vous êtes porté candidat pour cette émission, c'est le premier sujet que vous nous avez proposé.
Oui.
Et vous dites, on va essayer de comprendre que ce sujet, et que tout sujet de dissertation au moment où on le traite, est absolument urgent. Pourquoi une telle urgence de ce sujet au moment où vous l'avez proposé?
Alors, il y a deux raisons à cela. La première, c'est parce que c'est le sujet que je venais de donner à mes élèves.
Oui, ce qui est une très bonne raison.
Et la deuxième, c'est parce que finalement, s'interroger sur la société, sur le sens de toute forme de politique, c'est s'interroger sur un équilibre toujours très fragile qu'on arrive à peu près jamais à avoir. En tout cas, on tend toujours vers lui. C'est à la fois, il faut bien se soumettre à une forme d'autorité ou de loi pour pouvoir vivre ensemble. Hein, d'un côté, mais de l'autre côté, on est toujours jaloux de notre liberté individuelle. Hein. Et ceux qu'on condamne ou qu'on accuse de ne pas respecter la loi, on leur dit c'est à cause d'eux que la société va à volo. Mais en même temps, on aimerait que la loi nous laisse tranquille parfois. Ouais. On aimerait pouvoir jouir d'une liberté totale. Et quand la loi du coup se tourne vers nous. Et nous prend nous-mêmes en faute, alors là, elle devient autoritaire, elle devient insupportable.
Par exemple, on peut être choqué par les actions des Black Blocs qui vont pendant une manifestation tout casser autour d'eux et la violence qui est perpétrée, et en même temps regretter le fait de ne pas pouvoir allumer une cigarette dans la cour du lycée, par exemple.
Exactement. Exactement. Donc, finalement, la foi et la loi, ces deux idées qui nous permettent de nous associer, de créer une sorte de ciment social entre nous, hein, jusqu'à quel point est-ce qu'il faut s'y soumettre? Jusqu'à quel point est-ce qu'il faut refuser de s'y soumettre? Quel est l'équilibre entre les deux? C'est toute la question, c'est tout le problème.
C'est un sujet passionnant. Ce serait le sens de votre problématique?
Oui, absolument. Alors, j'annonce le plan. Alors, assez rapidement, parenthèse, truc et astuce, hein, souvent, dans une introduction, quand on a bien fait notre plan et qu'on est assez content de notre plan, on prend le plan comme une sorte de résumé de ce qui va suivre. Hein. Moi, je conseille souvent aux élèves d'annoncer un plan très brièvement, ménager le suspense, essayer d'appâter le correcteur, d'appâter le lecteur en lui disant « Je vous révèle pas trop ce qui va suivre, vous allez bien voir. » Simplement, et vous voyez, comme ça éveille l'attention du lecteur. Hein. Il se dit pas que ça y est, il a lu tout le résumé de la copie dès la première page. Donc simplement les trois premières idées. La première idée, c'est que on ne peut pas vivre sans foi ni loi, hein, puisqu'il faut sortir de l'état de guerre si on veut pouvoir espérer vivre et prospérer en société. Mais en même temps, comme je viens de le dire, hein, il faut en même temps pouvoir s'affranchir de la foi et de la loi si on veut espérer, refuser les autorités arbitraires, injustes ou illégitimes, et jouir de notre liberté individuelle. Voilà. Et peut-être voir dans une troisième partie, mais c'est ce qu'on verra, suspense. Que à travers la foi et la loi, hein, c'est pas simplement un ordre social qu'on recherche, mais simplement des repères pratiques pour l'action avec autrui.
On ne répétera jamais assez aux candidats combien l'épreuve de la dissertation ou du commentaire de texte sont aussi des épreuves de... Enfin, qu'ils s'adressent à un correcteur. C'est presque un exercice de séduction aussi, et de les prendre par la main. Ils sont en train de corriger beaucoup de copies et leur donner envie de lire la copie que nous sommes en train d'écrire. Ça fait partie aussi de l'exercice même.
Le candidat au bac est un auteur.
C'est un auteur, exactement. Un auteur. Il doit se concevoir comme tel et penser à son lecteur.
Absolument.
Qui est son professeur. Un professeur, en tout cas.
Un professeur, au bac, le correcteur est un lecteur bienveillant et cultivé, c'est-à-dire qui comprend tout à partir du moment où il lui explique clairement.
Alors, on va essayer d'expliquer clairement quels sont les enjeux de cette première partie. Est-ce que vous lui donnez un titre à cette première partie?
L'idée générale. L'idée générale est qu'on ne peut pas vivre sans foi ni loi.
Donc on commence par répondre non.
Voilà.
À la question, peut-on vivre sans foi ni loi? Non. Et voici pourquoi.
Voilà, exactement. Voici pourquoi. Alors, à ce moment-là, on peut commencer à rentrer dans la définition des termes du sujet. Hein, on s'est pas perdu dans la définition des termes dans l'introduction, mais à partir du développement, toute la pensée, toute la réflexion, ça va être une réflexion sur les termes mêmes du sujet. Alors, qu'est-ce que c'est que la loi? Qu'est-ce que c'est que la foi? D'ailleurs, nouvelle parenthèse, truc et astuce, il ne faudrait pas, dans les trois parties, pour tous les sujets qui ont comme ça plusieurs concepts à étudier, morceler le sujet, faire une grande partie sur la loi, une grande partie sur la foi, hein, ce qui, en réalité, détruit même le sens de la formule. Hein. Il faut voir la foi et la loi, les deux conjointement, dans chacune des parties. C'est très important. Alors ici, du coup, on est dans la première partie. Qu'est-ce que c'est que la loi? Qu'est-ce que c'est que la foi? Et comment est-ce que les deux, justement, font sens, hein, ensemble, articulés ensemble? Qu'est-ce que c'est que la loi? De manière générale, la loi se compose de l'ensemble des règles édictées par un pouvoir souverain qui s'organise en société. Alors ça, c'est pour la définition générale. Et cet ensemble de règles qui permettent de s'organiser en société, elles nous sont imposées de manière arbitraire et indiscutable. Hein. Là, le premier auteur qui peut nous aider à comprendre cette importance de la loi, c'est Hobbes. Hobbes, que souvent les élèves connaissent par la formule justement qu'on va reprendre, qui est « l'homme est un loup pour l'homme hein, », et qui décrit de cette manière l'état de nature, c'est-à-dire un état de perpétuel changement de chef, où la domination et la soumission sont, la règle commune. Hein.
Où c'est la loi du plus fort qui l'emporte,
exactement,
en réalité.
Exactement, la guerre de tous contre tous, comme on appelle ça.
Ou de chacun contre chacun, oui.
Exactement. Hein. Alors, là aussi, quand on dit que la loi est importante pour éviter le fait que l'homme soit un loup pour l'homme, hein, il faut prendre cette citation de Hobbes, mais il faut prendre la phrase entière. Hein, parce qu'en réalité, la phrase entière de Hobbes n'est pas « l'homme est un loup pour l'homme ». C'est, de point ouvrir les guillemets, ces deux formules sont vraies. L'homme est un dieu pour l'homme et l'homme est un loup pour l'homme.
Il est un dieu autant qu'un loup.
C'est un dieu autant qu'un loup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si à l'état de nature, l'homme est un loup pour l'homme, hein, c'est-à-dire que l'homme se comporte comme un animal qui va lutter pour sa survie, quitte à tuer les autres, hein, quitte à les voler, il en va pas de même à l'état civil. Si les élèves se réduisent à dire pour Hobbes l'homme est un loup pour l'homme, ça veut dire que pour Hobbes on réduirait l'homme nécessairement à son animalité. C'est pas du tout ce que dit Hobbes. Il dit que justement l'effet de la loi, on ne peut pas vivre sans loi parce que l'effet de la loi, c'est faire passer l'homme d'un loup à un dieu. C'est-à-dire que la loi permet d'apaiser les relations sociales puisque c'est l'autorité du souverain qui s'impose à tous. De manière implacable et indiscutable, hein. Alors ça apaise les relations avec autrui. Tout d'un coup, je peux lui faire confiance, je peux arrêter de soupçonner qu'il va me poignarder dans le dos, qu'il va me voler mes biens, qu'il va pénétrer chez moi sans mon autorisation, parce que je sais que la loi s'applique à lui avec la même force, la même sévérité qu'à moi. Et à ce moment-là, si les relations avec autrui sont pacifiées, je peux lui faire confiance. Il y a le début d'une loyauté. S'il y a de la loyauté, il y a un partage des tâches, il y a un travail en commun qui est possible. S'il y a un travail en commun qui est possible, la prospérité est possible. Et si la prospérité est possible, le bonheur est possible. Et ce bonheur sans tâche, puisque la prospérité est le lot de tous, ça permet à l'homme de vivre pareil à un dieu en société et pas à l'état de nature. Donc vous voyez, c'est très important de citer cette phrase vraiment dans son intégralité.
On peut même dire d'où elle est tirée, c'est encore mieux pour le candidat, puisque ce n'est pas le Léviathan de Hobbes, qui est son ouvrage le plus connu, mais le Citoyen.
Oui,
c'est ça.
Oui, oui. L'épître dédicatoire, Dekiwe dans son titre original, mais
en latin,
du Citoyen.
Oui. Voilà. Donc il ne fait aucun doute que ces deux formules sont vraies. L'homme est un dieu pour l'homme et l'homme est un loup pour l'homme.
Voilà, l'homme est un dieu pour l'homme à l'état civil. Et l'homme est un loup pour l'homme à l'état de nature.
C'est ce que vous ajoutez.
Voilà.
Pour bien comprendre. Voilà. Donc, à partir de cette citation, déjà, on aurait un bon début de première partie.
Oui, absolument. On peut pas vivre sans foi ni loi. Vivre sans foi ni loi, c'est vivre, ou d'abord sans loi, c'est vivre à l'état de nature, dans un état de guerre permanent, où celui qui vit en face de moi, autrui, est possiblement mon ennemi juré, mon ennemi mortel. Et par conséquent, ça empêche toute vie en commun.
Donc la loi est là pour nous protéger. On ne peut pas vivre sans foi ni loi car nous sommes contraints à vivre en société. Alors pour vivre en société, nous avons besoin de la loi pour nous protéger.
Oui.
C'est QFD, que reste-t-il à dire dans cette première partie ?
La foi. La foi. Quelle est l'importance de la foi ici ? Pourquoi rajouter la foi ? Pourquoi cette question morale ? Alors, deuxième référence, c'est Robespierre qui peut nous indiquer l'importance de la foi ici dans un discours très connu qu'il a prononcé au printemps 1794, en mai 1794 pour la fête de l'être suprême. Alors voilà ce que dit Robespierre, ouvrez les guillemets. Ce qui supplée à l'insuffisance de l'autorité humaine, c'est le sentiment religieux qu'imprime dans les âmes l'idée d'une sanction donnée par une puissance supérieure à l'homme. Elle est intéressante, cette phrase de Robespierre, et en fait, elle explique ce que c'est que la foi. C'est-à-dire que on peut toujours commettre des exactions à partir du moment où on est sûr d'être dans l'impunité.
Et être au-dessus des lois.
Être au-dessus des lois. Et finalement, rien de plus exaspérant de voir quelqu'un qui vit dans le crime, dans l'opulence, dans l'impunité, et qui mourrait chez lui, riche et tranquille, après avoir s'être moqué des lois toute sa vie. Et souvent, on a une impression quand même d'injustice profonde.
Là, on peut prendre des exemples tirés de l'actualité, non ?
Oui.
On peut faire attention aux manifestations d'indignation qui se soulèvent dès qu'une personnalité connue ou un homme politique semble passer à travers les mailles de la justice ou n'être pas jugé comme tout le monde. On peut le faire dans la dissertation.
Oui, oui, absolument. Alors, il faut faire attention de pas non plus retomber dans une façon d'asséner comme ça des opinions politiques. Mais oui, oui, pourquoi pas, bien sûr. On peut penser à tel dictateur mort dans son lit après des décennies. On peut penser à tel président du Conseil qui, dans un pays, fait voter des lois qui lui permet de s'en tirer à bon compte. Et souvent, on se dit, mais quand même, vous savez, il y a l'expression « il n'emportera pas au paradis ». C'est-à-dire cette idée que finalement, après la mort, il y a une sorte de justice transcendante qui va juger les gens sans que rien ne puisse lui échapper et qui va enfin appliquer la justice. Et cette idée morale religieuse d'une justice transcendante qui non seulement nous rattrape, qui non seulement nous empêche d'être dans l'impunité la plus totale, et qui en plus de ça légitimerait la justice humaine, cette idée d'une justice transcendante, c'est de la foi. C'est de la foi. C'est-à-dire la croyance en quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui donne sens à notre vie et à notre existence. Donc, la foi permet, au-delà de la loi, encore une fois, de construire ce qui va cimenter les relations avec autrui. Je parlais tout à l'heure de l'idée de destin commun. La foi, c'est ce qui nous permet de dire, nous sommes tous ensemble, nous faisons tous ensemble société, parce que tous ensemble, nous partageons un destin commun. Nous savons que quelque chose va donner sens à ce que nous sommes en train de construire ensemble.
On peut entendre cette notion de foi indépendamment de la croyance religieuse d'ailleurs, c'est même croire en un pays, croire en un peuple,
absolument,
croire en une forme d'idée.
Oui, oui, croire en un avenir, les lendemains qui chantent, quelque chose qui vaut qu'on se serre les coudes, quelque chose qui vaut que tout d'un coup on sacrifie notre intérêt individuel, notre liberté individuelle, nous soumettre à un sens, à un pouvoir qui va nous emporter, ça aussi, ça tient de la foi.
Vous citiez Robespierre, celui-ci ne dit pas autre chose lorsqu'il en appelle à créer une sorte de tribunal exceptionnel qui serait au-dessus des lois pour juger les individus pendant la Révolution. Écoutez cet extrait du film La Révolution française, réalisé par Robert Enrico en 89 pour le bicentenaire de la Révolution, car il me semble que cet extrait nous permettra de faire la transition vers la deuxième partie.
Le fait est que nous avons à faire face à des émeutes de la faim ici, à des rébellions dans l'Ouest et à la guerre qui tourne mal. Pendant un moment, nous avons cru avoir écrasé l'opposition, mais elle renaît comme une maladie incurable. Les hommes qui avaient accepté la révolution, qui ont tout au moins reconnu qu'un changement était nécessaire, se sont maintenant retournés contre elle. Ils veulent une révolution respectable, un gouvernement modéré. Nous devons faire face, Georges. Ce sont les modérés qui sont maintenant nos ennemis.
Nous y ferons face. Le tout est de savoir comment.
Temps exceptionnel, mesure exceptionnelle. Dans une situation de péril, le processus légal ordinaire n'a plus sa place. Personne n'a un plus grand respect de la loi que moi, comme tu le sais bien. Mais si la loi cesse d'accomplir ce pourquoi elle a été créée...
Une justice sommaire. C'est ça que tu veux.
Ce que je veux, c'est un nouveau tribunal révolutionnaire.
On nous traite déjà de dictateurs. Ils en profiteront pour en rajouter.
Nous n'avons plus le choix. Tout au moins jusqu'à ce que nous ayons repris la situation en main. Tu sais que j'ai raison.
Tu as toujours raison.
Et je sais qu'il n'y a que toi qui puisse faire changer d'avis ceux qui à la Convention s'y opposeront. Nous devons travailler ensemble, Georges. Nous pouvons le faire.
Robespierre et Danton discutent ensemble pour savoir comment épargner à la France un désordre vers lequel ils sont en train de plonger. Ils évoquent, enfin Robespierre évoque l'idée d'un tribunal exceptionnel. On est là dans le cadre d'une forme de conception de la loi qui serait au-dessus de la loi même des citoyens. Cet extrait et Robespierre, puisque vous l'avez cité, combine à la fois la loi et la foi, d'ailleurs.
Absolument. Il le combine. Parce que Robespierre dit, il n'y avait pas plus anticlérical que lui, mais il n'y avait pas en même temps plus religieux que lui. Hein. Robespierre dit que finalement, ce qui va consolider la vertu du citoyen, ce qui va faire qu'il va respecter la loi révolutionnaire, c'est la croyance en l'immortalité de l'âme. C'est la croyance dans le fait qu'il y a une justice supérieure qui va l'attendre. Et l'idée du tribunal révolutionnaire, j'aime beaucoup l'idée d'une justice mère, hein, c'est la justice transcendante de l'âme, qui parle à l'âme, qui susurre dans l'âme l'idée de la vertu, d'une justice absolue, et qui va du coup inspirer les révolutionnaires, qui se sentent par conséquent dans leur bon droit, hein, pour créer ce tribunal d'exception.
Et à partir de là, est-ce qu'on peut établir la transition de la manière suivante, en se disant, mais voici comment la loi peut aussi se retourner contre elle-même, ou être tellement tyrannique qu'il ne reste plus rien de la liberté, et penser une transition vers la seconde partie qui consisterait à dire, mais et ma liberté individuelle dans tout ça? Il est une chose de parler de la loi et de la foi qui permettent la vie en société, mais que reste-t-il de ma liberté?
Exactement, parce que quand la loi et la foi régissent la société entière, elle dit ce qu'est le bien, non seulement le juste légalement parlant, mais le bien moralement parlant. Et à ce moment-là, la foi et la loi régissent toute la vie, tant la sphère publique que la sphère privée. L'intimité est régie en même temps par une sorte d'autorité morale, sociale. On plonge dans l'ordre moral. On plonge dans l'ordre moral, et cet ordre moral-là, il est légitimé par l'Église, par l'autorité morale. Il est imposé par la loi, par l'autorité politique. Il étouffe l'individu. Il étouffe l'individu, et plus l'individu étouffe, et plus il se dit, mais finalement, la seule manière de pouvoir redevenir maître de moi, de pouvoir conduire ma vie comme je le veux, finalement, de chercher le bonheur par moi-même, hein, ce serait de récupérer ma liberté, de détruire l'État, tout simplement.
Donc la deuxième partie, ce serait, s'intéresserait au cas, et donc aussi au concept de la liberté, et la liberté dans tout ça, aurait-on envie de dire.
Exactement. On pourrait dire dans la deuxième partie que non seulement on peut vivre sans foi ni loi, que ça n'est pas contradictoire, qu'on peut faire société sans foi ni loi, mais qu'en même temps il le faut. C'est un impératif de vivre sans foi ni loi, puisque ce serait la seule manière de retrouver une forme de liberté, une forme de respect fondamental de la justice. Donc, ce qui est intéressant dans cette deuxième partie, c'est que l'idée de sans foi ni loi peut renvoyer à cette formule anarchiste bien connue, hein, qui était d'ailleurs le titre d'un journal révolutionnaire en 1880 d'Auguste Blanqui, ni Dieu ni maître. Hein. Ni Dieu, pas de foi, ni maître, pas de loi. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire cette formule ni Dieu ni maître, hein? C'est la formule de l'anarchisme, cette conception politique tout à fait particulière, hein, que parfois les élèves voient également en cours, hein, qui répond à la définition.
Enfin, voient, étudient. Parce que je leur souhaite de ne pas assister à une situation anarchique en cours, ou alors bon courage.
Oui, non, absolument. Étudie en cours, et qui correspond à la définition suivante, donnée par Proudhon, hein, la plus connue, hein, l'anarchie, c'est l'ordre sans le pouvoir. Ce qui veut dire que les anarchistes ne sont pas des adeptes du désordre ou du chaos. Ils recherchent l'ordre, eux aussi, mais à leur manière.
Ça, c'est très important, cette idée que l'ordre n'est pas une notion étrangère à celle d'anarchie.
Absolument, absolument.
Mais c'est l'ordre sans la loi, c'est ça?
C'est ça, c'est l'ordre sans la loi. Alors c'est Proudhon qui le dit. à la fin d'un livre au titre toujours très éloquent, Qu'est-ce que la propriété, hein. C'est un livre dont on retient pareil qu'une seule formule, hein. La propriété, c'est le vol, hein. Mais il y a bien d'autres choses dans ce livre qui sont passionnantes, hein. Et notamment la définition que Proudhon donne de la justice et de l'équité, hein. Et retrouver le sens de la justice, c'est se débarrasser de la loi imposée par le pouvoir. Alors voilà ce que dit Proudhon à la fin du livre, au chapitre 5. Je cite « L'équité ne change pas la justice, mais par l'équité, c'est pour nous tout à la fois un devoir et une volupté d'aider l'être faible qui a besoin de nous et de le faire notre égal. » C'est tout à la fois un devoir et une volupté. Alors c'est très intéressant parce que ici Proudhon engage deux idées différentes, celle de justice et celle d'équité. Alors qu'est-ce que c'est que la justice ? La justice, c'est un sentiment. C'est un sentiment fondamental dans le cœur de l'homme. Il naît, pour ainsi dire, avec ce sentiment, avec cette soif de justice. Et qu'est-ce que c'est que l'équité ? C'est la justice raisonnée, réfléchie, réglée, mise en place dans la société. L'équité, c'est pas simplement une répartition raisonnée des besoins, c'est aussi ça, hein. Mais c'est aussi le guide qui va nous permettre de faire appliquer la justice dans la société. La loi imposée par l'État est celle qui se substitue à cette idée de justice fondamentale. Mmh. Hein. Il faut détruire la loi pour retrouver, pour ainsi dire, ce sentiment inné de la justice qui, de lui-même, va nous permettre de mettre en œuvre une forme d'équité dans la société.
Donc la loi s'oppose à la justice dans cette
la
idée.
La loi s'oppose à la justice.
Pas évident à comprendre.
Absolument.
La loi est pour garantir l'expression de la justice, voire même garantit la justice normalement.
Voilà. Mais la loi, à partir du moment où elle nous est imposée de l'extérieur, ne correspond pas au sentiment de la justice que nous avons au fond de notre cœur.
La justice est un sentiment.
C'est un sentiment.
Pas qu'un tribunal.
Non. C'est un sentiment, dit Proudhon, qui est fondamentalement au cœur de l'homme, qui régit les relations avec autrui et qui aussi est présent dans les ambitions des peuples mêmes. Donc la justice, c'est ce qui régit notre vie à trois niveaux. Au niveau intime individuel, au niveau interpersonnel et au niveau des États, au niveau de la politique internationale presque. Hein. Ce sentiment de justice pour lui, il est fondamental. Et quand on arrive à l'appliquer, quand on arrive à se passer de la loi qui nous hiérarchise, qui nous a servi sous une autorité illégitime, alors d'elle-même va se mettre en place une forme d'égalité entre les hommes. Une égalité totale, pour ainsi dire naturelle, hein, qui va du coup être renforcée par la raison, hein, par le souci de faire droit à cette voie de la justice. Hein, et ce sentiment de la justice, il nous permet de vivre sans loi.
Vous citez Proudhon et votre développement convoque, je crois, d'autres réflexions, cette fois-ci d'ordre vraiment anarchiste, dont Bakounine. Je vous propose qu'on écoute un texte assez court de Bakounine qui va nous permettre d'avancer dans cette deuxième partie pour aller vers la troisième partie. Il est rare d'avoir l'occasion d'entendre un extrait du catéchisme révolutionnaire de Bakounine. C'est Georges Clès qui le lit.
Il n'est point vrai que la liberté d'un homme soit limitée par celle de tous les autres. L'homme n'est réellement libre qu'autant que sa liberté, librement reconnue et représentée comme par un miroir par la conscience libre de tous les autres, trouve la confirmation de son extension à l'infini dans leur liberté. L'homme n'est vraiment libre que parmi les autres hommes également libres. Et comme il n'est libre qu'à titre d'humain, l'esclavage d'un seul homme sur la terre étant une offense contre le principe même de l'humanité, est la négation de la liberté de tous. La liberté de chacun n'est donc réalisable que dans l'égalité de tous. La réalisation de la liberté dans l'égalité du droit et du fait est la justice. Il n'existe qu'un seul dogme, qu'une seule loi, qu'une seule base morale pour les hommes, c'est la liberté. Respecter la liberté de son prochain, c'est le devoir. L'aimer, l'aider, le servir, c'est la vertu. Exclusion absolue de tout principe d'autorité et de raison d'État.
« préparer l'épreuve de philo pour le jour du bac. C'est ce que nous vous proposons de faire cette semaine sur France Culture, les chemins de la philosophie, mais aussi les autres émissions de France Culture qui vous aident à préparer les autres épreuves du bac. En ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est un sujet de dissertation que nous corrigeons pour vous. Peut-on vivre sans foi ni loi? C'est le professeur de philosophie Julien Chanalune qui a proposé ce sujet et qui planche pour vous depuis 10 heures ce matin. On vient d'entendre un extrait de Bakounine, catéchisme révolutionnaire. Et alors, Julien Chanalune, j'ai fait le compte, en 12 lignes, le texte est 12 lignes, le terme de liberté a été employé 10 fois. Et liberté, évidemment, individuelle. Ici, la liberté est la seule chose qui vaille au-delà de la loi, oui. Peut-être même au-delà de la forme de justice, c'est la liberté individuelle qui est revendiquée avant tout.
Oui. C'est pas un texte si facile parce que déjà il commence par remettre en cause.
Non, mais je suis content de vous l'entendre dire parce que vous l'étudiez avec vos élèves ce texte.
Ça m'arrive. Bakounine, ouais. Absolument. Ça m'arrive parce que la notion de liberté de Bakounine ici, elle est pas si facile, mais elle est passionnante. D'abord, il remet en cause l'idée de la liberté que tout le monde se fait. Ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui. Et on a l'impression que quand on a dit ça, on a posé les bases de la société, du vivre ensemble, comme on dit aujourd'hui. C'est d'ailleurs ce que fait Rousseau. On retrouve cette idée chez Rousseau. On retrouve cette idée dans la Déclaration de l'Homme et du Citoyen de 1789. Et Bakounine commence par dire que non, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai que la liberté de l'homme s'arrête là où commence celle d'un autre homme. C'est pas comme ça que ça fonctionne. L'homme est réellement libre, dit-il, à partir du moment où la liberté de tous les hommes est respectée. À partir du moment où un seul homme est mis en esclavage, alors ça ruine la liberté de tous les autres hommes. Ça paraît un peu compliqué à comprendre, un peu abstrait. Qu'est-ce qui veut dire Bakounine ici ? L'homme n'est vraiment libre que parmi les autres hommes également libres. On a l'impression qu'il y a une forme d'idéalisme dans la liberté. C'est-à-dire que chaque liberté individuelle est l'incarnation, la figuration d'une liberté idéale, d'une liberté absolue. Et que jouir de sa liberté individuelle, c'est proclamer l'idée générale d'une humanité profondément et absolument libre qui se réalise dans cette liberté. Et donc si un seul homme n'est pas libre, si un seul homme est soumis à un pouvoir illégitime, un pouvoir arbitraire, alors c'est l'idée même de liberté humaine qui est niée. Et cette idée même de liberté nié, rejaillit sur tous les autres hommes. Donc un seul homme soumis, un seul homme mis en esclavage, est un poignard qui est planté dans le cœur de tous les autres hommes et pris de leur propre liberté. Et là, on a dans cet idéal, presque idéaliste de liberté, le germe, le ferment de la fureur révolutionnaire de Bakounine.
Vous avez prononcé le terme d'idéal ou d'idéaliste. Est-ce que c'est là, à partir de ça, qu'on peut proposer une transition ? Peut-être cette position est peut-être séduisante, mais elle a aussi ses travers et elle est inapplicable.
Oui, alors, elle part d'un présupposé embêtant, ou en tout cas qui peut nous gêner. Bakounine dit, c'est très simple, l'homme a en lui cette liberté, et si on détruit les ferments de la domination, de la soumission, de l'esclavage que sont l'Église et l'État, alors à ce moment-là, la liberté peut encore une fois, d'elle-même, naturellement, s'épanouir dans la société. Mais ça présuppose la chose suivante, ça présuppose que l'homme a déjà en lui-même une forme d'altruisme naturel et qu'il va naturellement de lui-même se préoccuper du sort d'autrui, peut-être même avant le sien. Qu'il y a cette forme d'altruisme en l'homme. On peut le présupposer, on peut l'admettre, mais ça reste une croyance qui est aussi très très discutable. Et peut-être que justement, la loi est là pour parer à l'éventualité que peut-être certaines personnes n'ont pas cette soif de justice ou de liberté chevillée au cœur et qu'ils ne font pas montre de cet altruisme fondamental.
Donc on s'interrogerait dans la troisième partie sur les conditions pratiques de l'application d'un idéal de vie sans foi ni loi.
Oui, c'est ça, parce qu'au fond, la loi et la foi, ça sert à quoi ? Au fond, la loi et la foi, ça sert, comme on l'a dit au tout début, donc on peut revenir réévoquer ce qu'on avait dit dès l'introduction. La foi et la loi, ça sert à cimenter une société. Ça sert à faire que les gens puissent vivre ensemble, interagir les uns avec les autres, sans se sentir perpétuellement menacés. Au fond, la foi et la loi, au-delà, ou peut-être plutôt en deçà, de l'ordre moral qu'ils imposeraient sur la société, permettent tout simplement de mettre en place des repères pratiques à l'action. Des repères pratiques. Alors pratique, ça veut dire quoi ? Pratique, alors ça veut dire, souvent quand on a un objet pratique, ça veut dire qu'il est simple, efficace d'utilisation. Mais pratique, de manière plus large, hein, ça désigne tout ce qui rend possible l'action, tout ce qui lui permet vraiment de s'affirmer dans la réalité et tout ce qui nous permet aussi de mesurer ou de prévoir les conséquences de mon action. C'est ça la pratique. Et donc du coup, comment agir dans la société? Comment agir avec autrui? On a besoin de repères pratiques. Alors ils sont donnés par la foi et la loi, mais peut-être qu'on pourrait les trouver ailleurs. Peut-être qu'on pourrait vivre sans foi ni loi, mais non pas dans le chaos, mais avec justement des repères pratiques qui nous permettent d'interagir avec autrui.
Alors, quels sont ces repères pratiques? On a envie d'en savoir plus. Là, vous tenez le correcteur, donc l'auditeur, aujourd'hui en haleine.
Alors, c'est pas si évident à trouver. Là, il faut peut-être mobiliser sa culture philosophique, sa culture générale. Et on peut aller voir ailleurs, aller explorer des nouveaux terrains. Et notamment, dans la troisième partie, se demander quel auteur, quelle référence pourrait me donner des mots, des idées, des notions que je pourrais travailler pour les mettre en parallèle avec l'idée de foi et l'idée de loi. Et Hannah Arendt, si jamais les élèves ont eu la chance de l'étudier en cours,
hein, ce qu'on leur souhaite.
Ce qu'on leur souhaite absolument, peut tout à fait tenir ce rôle.
Donc si je vous comprends bien, l'idée est de montrer que la foi et la loi, dans un premier temps, sont nécessaires à la vie en société, dans un second temps que ces mêmes foi et lois peuvent nuire à la liberté individuelle, et dans un troisième temps de montrer ce qui, dans la société, ne serait ni la foi ni la loi, mais permettrait quand même de vivre ensemble.
Voilà.
Donc vous prenez au sérieux l'idéal anarchiste. C'est vous partez du principe que l'on pourrait vivre sans foi ni loi.
Oui, absolument. Puisque finalement, pourquoi est-ce qu'on a besoin de la foi et de la loi? On en a besoin pour avoir des repères pratiques. Mais si on les trouve ailleurs, on n'en a plus besoin.
Alors, on a d'autant plus envie de savoir ce que sont ces repères pratiques que, d'après vous, ils peuvent se substituer à la loi. C'est quand même énorme.
Mais c'est même leur rôle de se substituer à la loi.
Alors, dites-nous, avec Arendt, Hannah Arendt.
Alors, Arendt nous dit, à la fin de La condition de l'homme moderne, alors, parle de quelque chose qui, a priori, paraît très loin de notre sujet. Elle parle de l'imprévisibilité, de l'irréversibilité de l'action. On se dit, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la foi, avec la loi? Et si ça se trouve même, les élèves qui ont eu la chance de voir ce texte pendant l'année l'ont vu sur un autre chapitre, sur un chapitre autour de la notion d'autrui ou du travail, par exemple. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, hein, qu'il ne faut pas cloisonner sa culture philosophique quand on est un candidat au bac, mais il faut aller chercher partout. Si là, on se fixe seulement sur un chapitre de politique ou de religion, peut-être qu'on n'aura pas l'idée d'aller voir chez Hannah Arendt. Hein. Mais Hannah Arendt dit que contre l'irréversibilité de l'action, il y a l'idée du pardon. Et contre l'imprévisibilité de l'action, il y a l'idée de la promesse.
Voulez-vous que nous écoutions ce texte qui a été lu parce qu'il est vraiment magnifique et peut nous aider à avancer dans le développement?
Volontiers.
Contre l'irréversibilité, contre la chaotique incertitude de l'avenir, le remède se trouve dans la faculté de faire et de tenir des promesses. Ces deux facultés, du pardon et de la promesse, vont de pair. Celle du pardon sert à supprimer les actes du passé dont les fautes sont suspendues comme l'épée de Damoclès au-dessus de chaque génération nouvelle. L'autre, qui consiste à se lier par des promesses, sert à disposer dans cet océan d'incertitude qu'est l'avenir, par définition, des îlots de sécurité sans lesquels aucune continuité, sans parler de durée, ne serait possible dans les relations des hommes entre eux. Si nous n'étions pardonnés, délivrés des conséquences de ce que nous avons fait, notre capacité d'agir serait comme enfermée dans un acte unique dont nous ne pourrions jamais nous relever. Nous resterions à jamais victimes de ses conséquences. Pareil à l'apprenti sorcier qui, faute de formule magique, ne pouvait briser le charme. Si nous n'étions liés par des promesses, nous serions incapables de conserver nos identités. Nous serions condamnés à errer sans force et sans but, chacun dans les ténèbres de son cœur solitaire, pris dans les équivoques et les contradictions de ce cœur. Dans des ténèbres que rien ne peut dissiper sinon la lumière que répand sur le domaine public la présence des autres, qui confirme l'identité de l'homme qui promet et de l'homme qui accomplit. Les deux facultés dépendent d'autrui, car nul ne peut se pardonner à soi-même. Nul ne se sent lié par une promesse qu'il n'a faite qu'à soi. Pardon et promesse dans la solitude ou l'isolement demeurent irréels et ne peuvent avoir d'autre sens que celui d'un rôle que l'on joue pour soi.
Vous écoutez France Culture, Les Chemins de la Philosophie. Ce texte de Hannah Arendt a été lu par Georges Clès. Et retenez-le, chers élèves, chers parents, chers tout le monde qui écoutait, qui venait d'écouter ce texte, car une fois qu'on l'a lu, qu'on l'a entendu, on y pense souvent. C'est un texte qui accompagne et qui permet de réfléchir à ce qu'on appelle la promesse et le pardon comme étant des éléments essentiels de la vie en société. Et qu'on soit philosophe ou non, ça marche dans les deux cas, n'est-ce pas, Julien Chanelin?
Absolument. Ici, on peut tout à fait rattacher ce texte-là à notre sujet en disant que le pardon constitue un dépassement de la loi et que la promesse constitue un dépassement de la foi et qu'on peut vivre sans foi ni loi, non pas en vivant comme un parfait voyou, mais en vivant par le pardon et par la promesse. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que le pardon? C'est compliqué, le pardon. C'est pas un oubli. On n'oublie pas ce qui s'est passé quand on pardonne à quelqu'un. C'est pas non plus un jugement, évidemment, juridique, mais c'est une sorte d'acquittement moral. Je n'oublie pas ce que tu as fait, mais je t'acquitte. Au mépris de la loi. Au mépris de la loi. L'idée même de pardon est d'ignorer la loi. C'est très intéressant. On le voit d'ailleurs dans l'évangile de Matthieu, dans le Nouveau Testament, où Jésus dit à ses disciples et à tous les gens qui sont venus pour l'écouter, la loi vous dit que, alors je cite de mémoire, la loi vous dit que, œil pour œil, dent pour dent, mais moi, je vous dis d'aimer vos ennemis plus que vos amis, de tendre la joue droite ou la gauche, je sais plus dans quel ordre c'est, de tendre la joue droite si on vous frappe sur la joue gauche, c'est-à-dire d'ignorer purement et simplement la loi. D'ignorer la loi, et c'est en l'ignorant qu'on va trouver quelque chose de plus profondément et de plus hautement humain dans la relation avec autrui.
On peut dire qu'il y aurait une lecture anarchiste du Nouveau Testament ?
Absolument, absolument. Dans le dépassement de la loi pour elle-même, la loi qui s'applique de manière formelle pour elle-même, il y a au contraire quelque chose de purement humain à ne pas respecter la loi, mais à la subordonner à notre relation avec autrui, à notre idée que finalement, dans la relation immédiate avec autrui, se joue quelque chose de plus important. Par exemple, dans la vie de couple ou même en amitié, quelqu'un m'a blessé, m'a vexé. Si je ne lui pardonne pas, à la moindre vexation, à la moindre contrariété, les relations sont rompues. En réalité, on a besoin constamment de pardon pour vivre avec autrui. Donc, le pardon, c'est la première chose. On parlait de Mad Max au tout début.
Oui.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, comme on l'a dit, Mad Max ne se pardonne pas à lui-même la mort de sa femme. Et c'est pour ça qu'il se retranche du reste de l'humanité. Et on espère, tout au long du film, que en retrouvant une communauté qu'il accepte, il va pouvoir se pardonner à lui-même et de revenir dans la vie et de reconstruire ce qui lui reste de vie. Et c'est dit assez explicitement à un moment dans le film. On a besoin du pardon pour continuer à vivre, d'une certaine manière. En ce qui concerne la promesse maintenant...
Il nous reste 2 minutes.
Alors, la promesse, c'est très court. La promesse, c'est l'espoir du désespéré. C'est-à-dire que quand on n'a pas la foi, quand on n'a pas cette croyance, cette certitude en l'avenir, je suis sûr que les lendemains vont chanter, je suis sûr que Dieu va nous juger et que nous serons sauvés, je suis sûr que la société va être juste et heureuse. Je peux me rattacher à cette promesse faite à autrui, ces îlots de certitude, ces îlots de sécurité dont parle Hannah Arendt, qui vont me permettre de poser des actes, de mesurer les effets de ces actes sur plus ou moins le long terme, et donc de construire quelque chose avec autrui. La promesse me permet de me projeter dans l'avenir, et sans cette projection dans l'avenir, pas de société possible. Et là encore, Mad Max en a un exemple assez éclairant. Lorsqu'il dit à la communauté qu'il rencontre, « Donnez-moi 20 litres, je crois, d'essence, et je vous rapporte le camion-citerne dont vous avez besoin. » Et la question est, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce qu'il va revenir? C'est parce que on lui fait confiance, c'est parce que la promesse est faite, que par conséquent, les hommes peuvent espérer, grâce au camion-citerne, construire une nouvelle société.
La promesse et le pardon sont des îlots de sécurité dans un océan d'incertitude. L'expression est de Arendt, donc on trouve ça dans la troisième partie de La condition de l'homme moderne, 1958. Il vous reste 30 secondes pour conclure, Julien Chanelune.
Alors en conclusion, très rapidement, hein, vivre sans foi ni loi, c'est à la fois impossible et nécessaire. Hein. C'est impossible parce que nous avons besoin d'un ordre social, nous avons besoin de structures, d'un cadre à l'action humaine. En ça, il faut accorder de l'importance à la foi et à la loi. Mais vivre sans foi ni loi, c'est nécessaire, non seulement pour récupérer sa propre liberté, redevenir maître de soi et de sa propre quête du bonheur, hein, et en même temps pour retrouver l'intensité, la spontanéité dans la relation avec autrui.
Et c'est une conclusion.
Voilà.
On verra combien, quelle note vous recevez. Vous vous mettez à vous-même une note. Vous êtes professeur, j'imagine aussi examinateur. Merci en tout cas d'être venu vous prêter au jeu de la correction du sujet de dissertation à ce micro aujourd'hui.
Merci à vous.
Je rappelle que vous enseignez la philosophie au lycée Sonia Delaunay de Cesson. On souhaite bon courage à vos élèves qui ont bien de la chance, qui seront sans doute bien préparés. Et je renvoie les auditeurs à la lecture de votre livre La philosophie au bac, cours et méthodes en 20 sujets qu'on trouve aux éditions Ellipse.
Thanksgiving disguised as a feast. Rolling in the Rolls Royce Caniche. Only the doctor's got this, I'm hiding from police. Cocaine seats, all white like I got the whole thing bleached. Drug dealer chic. I'm wondering if a thug's prayers reach. It's pious, pious, for God loves pious. Socrates asks whose bias do y'all seek? Off Plato. Screech. I'm out here balling, I know you hear my sneaks. Jesus was a carpenter, Yeezy, lay beats.
No Church in the Wild, c'est Kanye West et Jay-Z qui le chante pour terminer cette émission et accompagner l'entrée de Géraldine Mosna-Savoie en studio pour son journal de la philo.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Alors, en fidèle auditrice et participante au chemin de la philosophie que vous êtes, vous accompagnez cette semaine de révision et vous êtes plongée dans les annales du bac philo.
Oui, alors sauf les vôtres, je suis désolée. Voilà. Donc pour moi, les annales du bac représentent une catégorie bien précise de l'édition. C'est le genre de livre que l'on fréquente une ou deux années dans sa vie et qu'il faut le dire, ne laisse pas de souvenirs, sinon parce qu'on a sué dessus. Alors je reconnais que c'est très difficile d'innover dans le genre. Texte canonique, auteur incontournable, notion décortiquée et définition à apprendre par cœur. La philo est là-dessus une matière bien comme les autres, avec tout un ensemble de choses à bachoter. Alors comment réviser agréablement, autrement qu'en lisant votre livre évidemment ? Eh bien moi je propose de lire des romans et de prendre les écrivains pour des philosophes, soit le plaisir de la littérature alliée à de grandes questions.
Maintenant que nous voilà seuls dans ce petit salon, à l'abri de toute oreille indiscrète, écoutez-moi bien ma chère Cathy.
Non, non, je vous en prie, laissez-moi, prince. La seule chose que je demande à Dieu, c'est qu'il ait pitié du comte Bezoukhov et permette à sa belle âme de quitter en paix cette terre d'épreuves.
Je sais combien il vous est pénible de vous occuper de ces misérables détails alors que votre oncle et bienfaiteur, le comte Bezoukhov, se meurt. Mais il faut penser à l'avenir. Et l'avenir s'annonce plutôt sombre.
Guerre et paix de Tolstoï, c'est un peu l'équivalent en littérature d'Hegel et ses leçons sur l'histoire ou Sartre et sa critique de la raison dialectique, mais en plus plaisant, c'est un incontournable, un chef-d'œuvre qui fête d'ailleurs ses 150 ans et qui compte 2000 pages en version poche. Alors c'est vrai, c'est énorme, mais on le lit comme on suit une saga et on y trouve plein de questions passionnantes concernant les notions de culture. L'histoire, qui l'a fait ? Une guerre peut-elle être juste ? La religion aussi, Dieu existe-t-il ? Ou, sur l'art, le langage sert-il à exprimer la réalité ? Tolstoï a tout à cet égard du philosophe romancier qui a su déceler, raconter et revenir au sens de la vie le plus simple face aux événements les plus tragiques.
Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. L'asile de vieillard est à Marengo, à 80 kilomètres d'Alger. Je prendrai l'autobus à 2 heures et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller, je rentrerai demain soir. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille.
Sur le cas du romancier philosophe, on a ici l'inverse, Albert Camus, qui est lui le philosophe romancier que l'on vient d'entendre lire dans une archive de 1954, le tout début de son livre L'étranger. Alors on pourrait le comparer à Schopenhauer ou à Nietzsche, car avec lui il y a aussi un tragique de l'existence qui ne trouve pas une réponse, comme chez Tolstoï dans La croyance et la foi d'un sens de la vie. Mais finalement, pas vraiment besoin de le comparer. Camus est bien ce philosophe de l'absurde entre appel à la vie et nécessité de notre condition. Vous l'aurez compris, Camus et l'étranger, c'est ce qui traverse les notions de morale et vous pourrez y faire appel pour un sujet comme « Qu'est-ce qu'un devoir moral ? Est-il conciliable avec mon bonheur ? Ou encore, peut-on vouloir être immortel ?»
Netherfield Park est enfin loué. Vous n'avez pas envie de savoir qui s'y installe ?
Je suis déjà allé voir.
Est-il aimable ?
Est-il joli garçon ?
C'est ma mère !
Absolument.
Ah ! Il est là, il est à la porte !
Oh mon Dieu ! Essayez d'avoir toute une attitude naturelle.
Monsieur Collins, pour vous servir.
Les sœurs Bennett cherchaient un mari.
Seul un amour profond pourra me convaincre de me marier.
Monsieur Collins, ma sincérité m'interdit d'agréer cette demande.
Mais Elizabeth Bennett voulait bien plus encore.
Autre exemple, autre genre, Orgueil et préjugé de Jane Austen. Alors là, on est dans les notions de sujet. La volonté est-elle complice ou maîtresse du désir ? Est-il raisonnable d'aimer ? Peut-on vivre seul ? Pourquoi aime-t-on une personne ? Je suis vraiment ravie de pouvoir évoquer juste Jane Austen et ce roman pour toutes ces questions de raison et de passion. Elle n'est pas sans rappeler là-dessus Descartes ou Pascal, en un peu plus réjouissant parfois à la lecture. Sur le désir, soit l'autre et l'amour, on pourrait d'ailleurs lire tous ces romans.
Le train qui s'arrêtait au milieu des nuages aurait pu nous conduire à un destin meilleur. Nous avons eu le tort de trop croire au bonheur. Je ne veux pas mourir. La mort est un mirage. Le froid descend sur nos artères comme une main sur l'espérance. Le temps n'est plus à l'innocence. J'entends agoniser mon frère.
Alors c'est un petit peu moins réjouissant que Jane Austen, c'est un écrivain contemporain, c'est Michel Houellebecq. Alors pour ma part, je lirais moins comme un philosophe du sujet, de la culture ou de la morale que comme un penseur politique à travers ses poèmes, ses chansons et ses romans. Il trace un tableau de ses notions au programme comme la société, l'État ou la justice. L'homme est-il naturellement sociable, sujet où il pourrait être cité aux côtés d'Aristote, ou la démocratie est-elle le meilleur des régimes politiques, à côté de Houellebecq, Hobbes, Rousseau ou Locke, les philosophes du contrat, ou Tocqueville, philosophe de la démocratie, n'ont qu'à bien se tenir.
Vous voulez réagir, Julien Chanalune ?
J'aime beaucoup l'idée de réviser grâce à la littérature. Évidemment que les grands écrivains sont aussi des grands philosophes. Et peut-être même des fois en premier lieu. C'est Tolstoï, Austin, etc. Nous font penser en mettant en scène dans la fiction la réalité de la condition humaine. Donc c'est très important de ne pas en réalité se réduire à des anabaques un peu austères, mais d'aller se faire plaisir en lisant.
Pour réviser, chers élèves, eh bien lisez des romans et des livres que vous allez nous conseiller, Géraldine.
Alors je pourrais les mettre sur le site. Donc il y a Jane Austen, Michel Houellebecq, Albert Camus, Tolstoï, et bien sûr il y en a plein d'autres romans à lire.
Cette chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Un grand merci à David Pargamin qui a préparé cette émission avec Marianne Chassor, Maude Markiewicz, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Georges Kless à la lecture des textes, Milena Hellig à la réalisation, Jean Frédérics à la prise de son. On se retrouve demain pour la suite de cette série spéciale Bac Philo. Demain, ce sera une explication de texte, un texte de Bergson, tiré du rire. L'ouvrage de Bergson avec cette citation « On ne voit pas les choses elles-mêmes, mais les étiquettes qu'on a collées sur elles », un texte qui vous accompagnera toute votre vie. Et c'est le professeur de philosophie Gilles Verviche qui viendra l'expliquer pour vous en compagnie de ses élèves nombreux, en direct et en public, depuis la maison de Radio France. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission ainsi que celle d'hier, également spéciale Bac Philo, c'est très simple. Rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter les émissions en ligne, mais aussi et surtout les télécharger, les podcaster afin de les écouter où vous voulez et quand vous voulez, jusqu'à la veille de l'épreuve de philosophie, le jour du bac. On se retrouve demain à 10h donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.